Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons...
Toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de la discussion sur notre page Facebook.
Bonjour à tous et merci d'avoir été à l'écoute tout au long de notre série sur l'évaluation. Suite à toutes nos conversations, on s'est posé la question comment l'évaluation se passe au cycle préparatoire, ce qui n'est pas l'expertise de deux de nos animatrices. À première vue, on pense que le contexte semble tellement différent que l'évaluation le serait aussi. Par contre, on pense que vous serez aussi convaincus après notre conversation que l'évaluation au préscolaire est très semblable à l'évaluation aux autres cycles d'études. Alors, je vous présente notre collègue Aza Hamdi, qui est notre spécialiste avec une dizaine d'années d'expérience au cycle préparatoire. Bonjour Aza.
Bonjour.
Alors, on a préparé quelques questions pour toi et on va avoir une bonne discussion, puis les deux animatrices,
On va te bombarder,
on va avoir une belle discussion, puis nous autres aussi, qui connaît probablement pas beaucoup, puis on a probablement des perceptions, des vues qu'on pensait qu'on savait, mais je pense que toi, tu vas être ici vraiment là pour nous guider sur le bon chemin. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, la première question pour toi. Comment l'évaluation en maternelle-jardin est-elle différente de celle à l'élémentaire?
Bien, on sait que dans une maternelle-jardin, on a des enfants qui n'ont pas encore 4 ans, comme on a des enfants qui ont presque 6 ans. Et ça, c'est un grand large espace de temps où le développement de l'enfant est encore en jeu. Donc, on aura des enfants qui ne seront pas capables de d'atteindre des attentes d'un programme, comme d'autres sont déjà bien à l'aise avec des attentes ou bien qui les dépassent. Donc, le développement de l'enfant, ça, c'est une des raisons pour laquelle qu'on ne trouve pas à l'élémentaire où on a les mêmes attentes pour tous les élèves dans un même niveau. L'autre chose, c'est qu'on a un programme, on n'a pas un curriculum, on a un programme qui dure 2 ans. Donc, que les élèves ont 2 ans à atteindre, des attentes qui sont assez génériques. Donc, on ne peut pas atteindre les attentes pour les mêmes élèves. Comme on ne peut pas faire la même chose pour tout le monde en même temps.
Alors, si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'eux autres... Alors, ce n'est pas des attentes, en fait. C'est des choses qu'ils devraient être capables de faire. J'essaie de faire le pont, si Jen, tu peux, et Mylène, si vous pouvez confirmer ça, j'essaie de faire le pont avec nous. Comme tu sais, lorsqu'on disait qu'il y avait des résultats d'apprentissage, des critères de réussite, en fait, au préscolaire, il n'y a pas ça. Oui, il y a ça, mais c'est sous une forme différente.
Il y a ça sous une forme différente, justement. Donc, les résultats d'apprentissage viennent après. Ils ne viennent pas avant l'apprentissage. C'est ce qui a été fait. Ce n'est pas ce qu'on veut faire.
Oh.
Donc, un enfant sera capable de faire quelque chose comme un autre ne serait pas encore prêt à la faire. Donc, on partage ceci avec l'enfant. Et ça, c'est la clé de tout. C'est que l'enfant doit être conscient de ce qu'il est en train d'apprendre pendant le jeu, parce que ça, c'est un programme basé sur le jeu. Donc, par exemple, on est en train d'observer, parce que ça, c'est le gros du travail de l'équipe pédagogique. On a 2 adultes dans la classe. Donc, les 2 sont en train d'observer un enfant pendant le jeu et ils sont en train de noter ses observations. Ensuite, ils partagent ses observations avec l'élève en lui disant... Je vois que tu as été en train de, par exemple, rassembler des blocs dans un ordre où c'est rouge, bleu. Ça s'appelle un motif. Et tu sais, tu es en train de créer une suite. Donc, on est en train de mettre les mots de ce que c'est que cet apprentissage.
Alors, comparativement, dans ce qu'on fait de la première à la douzième année, où on annonce le résultat de l'apprentissage, puis on développe avec les élèves le critère de réussite, à ce moment-là, c'est l'élève dans ce qu'il est en train de faire. On va mettre ces mots-là dans la conversation avec ce qu'il est en train de construire.
Wow! Exactement. Mais donc, parlons de... On l'appelle une provocation ou une invitation à l'apprentissage.
Justement.
Alors là, tu as un objectif en tête.
Oui, toujours.
Alors, est-ce que tu pourrais donner un exemple, peut-être?
Donc, tout se joue dans le matériel qu'on présente, les situations d'apprentissage, je dirais. Alors, on parle de provocation ou invitation, c'est la même chose. C'est qu'on a une intention, on prépare du matériel ou une certaine activité où on pense que voilà comment un enfant pourrait faire ou explorer le concept des suites. On doit être aussi prêt à voir autre chose. Mm-hmm. Parce que peut-être il n'est pas prêt, mais peut-être qu'il va nous montrer autre chose ou un autre apprentissage où il va peut-être les empiler, les compter.
Les donc, classer selon un autre attribut.
Par exemple. Donc là, on doit être assez ouvert à ce qu'on va observer. On a toujours une intention au début, mais il faut peut-être noter. Et ça, c'est la clé de tout ça, c'est de connaître son programme à 100%. Oui. Faut pas partir du programme et faire partir de l'enfant.
Non.
Donc, c'est noter des observations. Puis ça, c'est aussi un exercice à faire vraiment à se fier juste à ce qu'on est en train de voir, pas ce qu'on est en train d'interpréter.
Exact.
Donc, je vois qu'il est en train d'empiler. C'est ça que je dois écrire comme observation.
Bien, là je vais aller un peu plus loin parce que je suis en train de continuellement poser des questions dans ma tête. Qu'est-ce que nous, on va leur dire aux élèves? Je vois que tu as fait ça, donc tu avais fait une suite. Il y a déjà des listes, il y a déjà... Je ne veux pas rentrer trop dans le mot.
La liste, je te dirais que c'est le curriculum.
C'est le programme. Ça. Oui. Dans le programme, c'est déjà précisé que, on prévoit qu'à la fin de ces deux ans-là, l'élève soit en mesure de faire tout ça. Et c'est, comme tu disais tantôt, il faudrait qu'on connaisse le programme vraiment à 100% pour être capable de dire qu'on le regarde, on l'identifie, puis on va dire à l'enfant, voici ce que tu as fait.
Oui. Okay. Donc, je vois le groupe d'interrogation que les gens vont se poser, c'est que, donc je dois faire ça pour chaque élève parce que c'est différent, puis on vient de dire que chacun a un niveau différent de développement. Oui. Et c'est pour ça qu'on est deux adultes dans la classe. On peut observer des choses, mais on ne doit pas se casser la tête ou se donner trop de travail de que, je dois observer tout le monde parce qu'il y a un temps d'exploration avec le matériel que je veux juste explorer. Puis, à un autre temps, on peut observer qu'est-ce qui est achevé. C'est pas une course.
Mm-hmm.
Donc, les observations, puis là, les deux observent différentes choses. Doivent se trouver un temps pour parler de ce qu'ils sont en train d'observer. Puis là, on met le doigt dessus de ce « Oh, ça, c'est cet apprentissage. » La stratégie s'appelle « Constater et identifier l'apprentissage. »
Qui remplace les deux piliers de la première à la douzième année, qui est les résultats d'apprentissage et les critères de réussite.
Mais j'ai une autre question pour toi à propos de cela, parce que tu parles beaucoup d'observations. Et puis, à l'élémentaire, on parle de la triangulation, les conversations, les productions et les observations. Est-ce que les productions et les conversations sont prises en considération aussi au préscolaire?
Oui, justement. Donc, les observations, c'est prendre des notes de ce que l'enfant fait, dit ou représente. Donc, c'est encore... parole comme conversation. Donc, il peut dire qu'il a fait ça. Donc, et ça, c'est une manifestation de son apprentissage. On prend ça en considération. Ou bien il va le faire, ou bien il va le représenter par un dessin, par une construction, par un bricolage, etc. Donc, les trois sont encore là. C'est juste que ce que l'adulte fait dans la classe, c'est qu'il note des observations des trois. Il y a toujours des conversations aussi où on a une interaction. On n'est pas juste derrière en train de juste observer, prendre des notes. On peut questionner, on peut demander des explications. Mais pourquoi tu as fait ceci? Je me demande si, qu'est-ce qui arriverait si? C'est de poser un peu un petit défi ou enrichir un peu ce qu'il est en train de faire ou bien juste de réagir comme « Oh, je vois que tu as fait une suite. Savais-tu que ça c'est une suite? C'est quand tu fais ceci. » Et là, l'élève est en train d'être conscient de ce qu'il est en train d'apprendre. Il peut être même un modèle pour d'autres élèves, mais ça, ça le met dans un état où, OK, voici ce que j'ai pu atteindre. Qu'est-ce que je pourrais faire prochainement? Mm-hmm. Donc, un objectif d'apprentissage, comme le haut de l'Inukshuk. Se donner un objectif d'apprentissage.
Absolument.
Personnel.
Je pense qu'on a... Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter?
Mais je sais pas, on a parlé dans les autres épisodes de la série la différence entre la documentation et la documentation pédagogique. Mmh. Puis je pense qu'au niveau de la maternelle et du jardin d'enfants, c'est vraiment important d'être objectif dans la prise de notes,
mmh,
pour pas qu'on interprète un apprentissage qui, en fait, n'était pas là.
Exactement.
Alors, si l'enfant est en train d'empiler des blocs parce que nous, on est en train de dire « il est en train de faire de la mesure » ou je sais pas, mais en fait, il était juste en train d'empiler les blocs.
Fait que comment...
Alors ça, c'est dans ce qui est la documentation pédagogique, c'est dans l'analyse.
OK.
Puis okay, il y a la conversation, exact, puis le questionnement.
Qui va venir compléter l'image, exact, comme on dit.
Exact. Parce que c'est pas parce que je prends une photo d'un moment X dans une journée Y que forcément, OK, ça, cet apprentissage-là est acquis.
Ouais.
C'est pas forcément vrai.
Ben, je pense qu'un autre lien qu'on pourrait faire, c'est l'idée du curriculum puis la planification en spiralée, puis l'idée d'un programme, d'avoir 2 ans pour apprendre quelque chose. Et c'est pareil à l'élémentaire aussi, on a 1 an pour apprendre quelque chose. Alors, si l'élève ne sait pas comment lire l'heure au mois d'octobre, mais on va revenir là-dessus plusieurs fois pendant l'année, et puis si c'est acquis au mois de juin, ben c'est acquis.
Mm-hmm. Parce que dépasser 5 ans, ben le développement est assez rapide jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc, ce qu'un enfant doit prendre 2 ans pour apprendre, un enfant au primaire peut prendre juste 1 année. Donc, c'est exactement ça. Je vais parler de la documentation pédagogique. On appelle ça l'écoute visible. Donc, c'est avoir des lentilles de curiosité en observant les enfants. C'est pas de les observer pour juste aller chercher « Oh, c'est où dans mon curriculum? » Alors, check, c'est fait, ou bien...
Pas check, c'est pas fait.
un commentaire de bulletin. C'est juste de voir l'élève ou l'enfant dans avec des yeux de le voir comme compétent, curieux et capable d'apprentissage complexe ou de réflexion complexe, de voir ses forces et ses façons de penser et de résoudre des problèmes, pas de façon ou d'une liste à vérifier où oh oui il peut faire ça et ou non qu'il peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Juste noter ce qu'on est en train de voir. Juste objectif. Et après s'asseoir et peut-être retourner vers le curriculum, puis voir le programme, je m'excuse, et dire qu'est-ce qu'on est en train de voir, qu'est-ce qu'il est en train de nous communiquer comme mm-hmm. apprentissage.
Mm-hmm. Et parfois, les élèves dépassent les apprentissages et le programme.
Toujours.
Tant mieux.
Je me rappelle quand j'enseignais au jardin, j'avais un élève qui comptait par bond de 3, faisait des multiples. C'était incroyable, c'est pas dans le curriculum, mais c'est quand même un apprentissage très intéressant.
Absolument.
C'est ça. Oui. Donc, se limiter à juste atteindre le programme, c'est qu'on est en train de mettre un plafond sur ceux qui sont capables de faire.
La loi du couvercle.
Et les attentes élevées.
Exactement. En fait, alors tantôt, je pense qu'à travers notre conversation, on avait parlé un petit peu de ça. Comment que les élèves sont impliqués dans tout ce processus d'évaluation-là. En fait, je vais juste faire le pont extension de ce qu'on avait parlé. Comment est-ce qu'on peut impliquer les élèves dans la collecte des preuves d'apprentissage? Prends un iPad, puis après ça, ils vont aller prendre une photo, ou comment est-ce que ça se passe?
Oui, ça c'est possible. Alors, ils peuvent ou bien venir voir l'adulte et dire « Voici ce que j'ai fait. Parle-moi de ce que tu as fait. » Alors, il va t'expliquer exactement. Et aussi, quand on est en train de noter, on lui partage, c'est pas un secret.
Mm-hmm.
Voici ce que j'ai noté, ce que tu as fait, et voici ce que je crois que tu es en train de faire comme apprentissage, parce que peut-être il va dire non, c'est pas ça que j'ai fait.
Ouais.
Alors, ils sont impliqués aussi dans la prise, parce que c'est pas juste prise de notes, mais on peut prendre des photos, des vidéos, on leur montre, c'est pas quelque chose qu'on leur cache. Et quand on prépare ça comme sous forme de portfolio ou Chaque équipe pédagogique a sa façon de faire, où on les affiche sur les murs, ils sont visibles. Les élèves peuvent les voir. Les autres aussi, ça peut les inspirer. Et on pourrait, de cette façon, impliquer l'élève, à amener. Des fois, ils vont faire des choses à la maison, ils peuvent amener. Regarde ce qu'on a fait ça à la maison. On a trouvé, si on est en train de parler de l'automne ou des feuilles, tout ça, il y en a beaucoup qui vont t'amener des choses de la maison ou impliquer les parents aussi. Parce que des fois, on peut voir des choses qu'on ne voit pas pendant la classe juste parce qu'on est plusieurs enfants dans la classe. Y a, le milieu est un peu différent, mais l'élève peut toujours, le parent peut toujours partager ses observations pendant le temps que l'élève est à la maison. Et ça, c'est un partenariat qui est critique.
Mm-hmm. J'avais justement la main levée parce que j'allais poser la question, comment est-ce que les parents sont impliqués? Puis je trouve que de nos jours, c'est tellement facile d'impliquer les parents. Et avec des applications ou des portfolios électroniques, on peut toujours avoir un input de la part des parents. Parce que surtout au préscolaire, il y a parfois des élèves qui sont très, très timides.
C'est ça, j'allais dire,
un peu débordés ou distraits dans le milieu de la salle de classe. Et il y a peut-être des apprentissages qui ressortent à la maison qu'on ne voit pas dans la salle de classe.
Tu me rappelles, j'avais une petite dans ma classe de maternelle quand j'étais en classe et elle n'ouvrait pas la bouche du tout. C'était une francophone, mais...
elle aimait juste pas s'en parler.
Alors, elle... et sa mère me jurait qu'à la maison, dès qu'elle débarque de l'autobus, elle n'arrête pas de raconter tout ce qui s'est passé dans la classe, toutes les heures, où la pauvre a été comme pas capable, mais c'était ce qui elle était. C'était sa personnalité. Et jusqu'à ce que, est venu le temps des bulletins, et je n'étais pas capable, je voyais des choses, mais elle n'était pas capable de me dire des choses. Et on était dans le temps avant ce programme-là, où elle devait me le dire en français, elle devait me dire quelque chose, elle n'est pas capable de me démontrer son apprentissage. Alors, la maman l'a enregistrée à la maison et m'a envoyé la cassette. C'était le temps des cassettes. Et on l'a entendue. Et tu devais voir son visage que, oh, finalement, j'ai une voix dans cette classe. C'était vraiment bien évident. Elle notait toutes les petits détails, toutes les petites choses qu'on faisait, même qu'est-ce que j'ai dit, mes paroles, exactement ce qui se passait dans la classe. Puis la pauvre a déversé ça à la maison.
Je pense que ça donne une autre définition, mais ça vient de voir une autre façon. C'est vraiment comment que l'apprentissage se fait en tout temps.
Exactement. Surtout, c'est pas juste les heures de classe.
Exactement, c'est pas juste les heures de classe. Puis ça peut surtout à cet âge-là, parce que comme tu avais dit tantôt, vu que c'est quand même une période de développement cognitif qui est quand même très important, c'est intéressant de voir comment que l'apprentissage se fait vraiment partout.
Il y a aussi l'attachement avec les adultes qui sont dans la classe.
Oui.
Ça aussi, on peut observer des choses, mais si on n'a pas ce lien avec les élèves, tu pourras juste bloquer ce qu'ils peuvent te dire.
Ouais.
Il y a aussi le milieu d'apprentissage que je veux souligner, qu'on est en train d'encourager les équipes pédagogiques de ne pas juste se limiter aux quatre murs de la classe.
Absolument.
Sortez dehors. Il y a des élèves qui sont d'autres élèves, juste parce qu'on est à l'extérieur, juste parce qu'on est en train d'explorer, on sort dehors. Le milieu affecte vraiment ce qu'ils sont en train de nous démontrer, ce qu'ils sont capables de nous démontrer.
Mm-hmm. Tantôt, tu as dit le mot magique, puis c'était justement ma prochaine question. Tu as dit le mot bulletin. Alors là, puis en fait, avant de... j'avais une idée, puis je voulais juste le partager en disant que, tu sais, à travers tout ce que tu viens de dire, puis je le dis maintenant, puis je vais le dire à la fin de notre épisode, c'est que j'entends tellement d'écho avec toutes les conversations que Jennifer, Mylène, puis moi, on avait fait durant toute la série. J'entends tellement d'écho, j'entends tellement de choses qui sont semblables. C'est juste... Pas faire plus, mais le faire autrement un petit peu.
Exactement.
Fait que là, je vais tomber dans ma prochaine question, c'est les bulletins. Alors, évidemment, comme d'après ce que moi j'ai compris, c'est que la communication du rendement est très différente au préscolaire. Alors, quelle information est communiquée avec les parents, puis comment est-ce que c'est communiqué? Alors, je te passe la parole.
D'accord. Alors, on a trois bulletins, comme dans l'élémentaire. Alors, on a le premier qui s'appelle observation initiale. C'est comme un grand paragraphe où on est en train de dire simplement aux parents, chers parents, je connais votre enfant, voilà.
Mm-hmm.
Alors, nous n'avons pas des matières dans notre programme, nous avons 4 domaines.
Mm-hmm.
Ce qui est différent parce que là, on n'a pas la littératie, la numératie, elle est comme ils sont ensemble dans un domaine. Mm-hmm. Ça s'appelle manifestation des apprentissages en littératie et en numératie. On a un autre domaine qui s'appelle appartenance et contribution. On a autorégulation et bien-être. Et on a résolution de problèmes et innovation. Donc, dans ces 4 domaines, pendant le premier, pour le premier, c'est observation initiale, tu peux parler d'un domaine ou l'autre. L'idée, c'est de faire un portrait de ce que l'enfant nous démontre comme individu. Les 2 autres bulletins s'appellent les relevés des apprentissages. Ce n'est pas un bulletin scolaire, ce n'est pas vraiment le mot fort.
C'est ça que scolaire. J'ai compris, ouais.
Ça s'appelle le relevé des apprentissages. Mm-hmm. Donc, encore une fois, parce qu'on respecte le développement de l'enfant, on est en train de compter aux parents ce que exactement cet enfant a pu apprendre, ses forces, ce qui est une évolution. Au début, il n'était pas capable de faire la, mais maintenant, il est en train de le faire et voici l'évolution de son apprentissage dans ce domaine. Ensuite, voici les prochaines étapes, mais les prochaines étapes que tous ensemble, j'y crois, que tous ensemble, on va amener cet élève. Il est prêt à apprendre ça. C'est pas... il devrait se pratiquer à parler en français à la maison, par exemple.
C'est très différent d'au primaire, par
exactement.
Exemple. Parce qu'au primaire, dans la formulation du commentaire, il va y avoir les bons coups,
oui.
Les forces,
oui.
Et la prochaine étape.
Oui. Oui.
Qui la prochaine étape est souvent déguisée en « on devrait travailler ». Tandis que là, en maternelle-jardin, c'est les apprentissages ou les principaux apprentissages, la progression, puis après ça, la prochaine étape. Ce qui fait que... à mon avis, et ça c'est parce que, je sais pas, j'ai peut-être baigné là-dedans trop longtemps, je trouve que le bulletin de maternelle-jardin est beaucoup plus représentatif. Parce qu'il n'y a pas de notes. L'adulte, pour pouvoir comprendre où en est son enfant, doit lire le commentaire.
Mm-hmm.
Chose qui n'est pas toujours fait de la première à la 12e année.
Non.
On voit la note, puis on fait « OK, c'est réglé! » Tandis que là, pour pouvoir porter un jugement sur ce qui se passe, il faut lire le commentaire.
Ouais. Comme maman... Quand je recevais le bulletin de mon fils, je regardais les notes et le commentaire était comme l'un validait l'autre. Mais il y avait un petit commentaire de 3 lignes en bas qui parlait de mon fils. C'est ça que je voyais, qu'il participe en classe ou comme... ça parlait de qui il est. Le programme a des attentes et les attentes sont divisées dans les 4 domaines, mm-hmm. comme pour le relevé des apprentissages. Et il y a certaines attentes qui sont dans plusieurs domaines.
Mm-hmm.
Comme la communication, par exemple. L'attente 1, elle est dans les 4 domaines. Parce que la communication, ça peut être ta communication de tes sentiments. Donc, ça, c'est autorégulation et bien-être. Comme la communication de tes apprentissages en littératie, en numératie. Ou bien une résolution de problèmes, quelque chose que l'enfant a créé. Ou bien même une appartenance et contribution. On a communiqué quelque chose pour le bien-être de la classe. Donc, c'est l'exercice de prendre ses observations, d'aller constater un apprentissage, de voir dans lequel des 4 domaines ça peut aller comme commentaire. Et qu'est-ce qui est le « ah » là? Voilà, ça c'est sa force, ça c'est ce qu'il a appris. Au début, il était... pas là. Et maintenant, voici un grand pas qu'il a franchi. Donc, un grand apprentissage qui a été achevé et la prochaine étape.
OK.
Donc, et pas de notes, bien sûr.
Non, c'est ça.
Et c'est l'équipe pédagogique, les 2 personnes en consultation avec la conciliation de tous les commentaires ou les observations qu'ils ont accumulées pendant toute l'étape. L'élève aussi, s'il a quelque chose à contribuer avec ça, le parent. Donc, c'est vraiment une communauté d'apprentissage.
Je trouve ça tellement intéressant.
Pour de la première à la 12e année, il y a le document qui s'appelle « Faire croître le succès », qui est un document qui est produit par le ministère de l'Ontario sur lequel on se base pour tout ce qui est politique d'évaluation. Pour la maternelle et le jardin d'enfants, ils ont sorti un supplément qui s'appelle « Faire croître le succès ». le supplément de la maternelle et du jardin d'enfants. Si vous avez des questions par rapport à ça ou vous voulez aller comme faire des lectures pour aller voir, OK, qu'est-ce que Aza disait à tel niveau, le document est super bien construit et il n'y a pas tant de pages que ça.
Oui, c'est pas aussi épais que l'autre. Mais où est-ce que les gens pourraient trouver un lien à ce document?
Ben, bon, sur le... Bon, la réponse facile va être sur le site du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Oh. Mais la vraie réponse, c'est sur le Facebook de nous, notre Facebook, à Pour toute la classe sur Facebook, ou si vous avez des questions sur l'adresse courriel pour toute la classe @gmail.com.
Que d'ailleurs, il faudrait que je me prenne en note, qu'il faut que j'aille vérifier s'il y a des courriels là-dedans.
On les vérifie tous les jours, gars.
Ça fait quelques temps, là, mais je vais aller le voir sous peu.
Avant de terminer, là, je lance le... Aza, est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir à propos de la maternelle et du jardin d'enfants?
Je veux juste ajouter quelque chose, c'est que la documentation pédagogique n'est pas juste un outil pour écrire le commentaire du bulletin, c'est un outil de planification. Parce que ce qu'on est en train de voir, d'observer et de noter et de documenter nous donne un tremplin pour qu'est-ce qu'on doit faire pour la prochaine étape.
Si on ou pour le lendemain.
Ou le lendemain. Ou qu'est-ce qu'on est en train de mettre comme matériel devant l'enfant, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter. Encore, c'est pas un secret, l'élève est capable très bien de te dire « Il nous manque, madame, des bâtons de popsicle pour continuer à faire ceci. » Ou « La colle est finie. » c'est leur classe. On est tous ensemble. Il n'y a pas d'hierarchie. C'est, on est tous membres de la communauté qui est dans cette classe,
ouais.
Adultes et enfants.
Puis pour dire que nous autres aussi, on est en apprentissage continu de nous-mêmes, de nos pratiques, en autant que c'est un apprentissage continuel sur nos élèves, puis comment que eux autres... Il vient, c'est vraiment un cercle, là. Il vient nourrir nos apprentissages, puis nous autres, on est en train de nourrir leur apprentissage aussi, je trouve.
Parce qu'à force de faire de la bonne documentation pédagogique, on se découvre nous-mêmes. Qu'est-ce qui accroche mon œil et qu'est-ce que je ne tiens pas compte, ça ne m'accroche pas.
Ouais. Un autre point que j'aimerais soulever, c'est que faites confiance à l'éducatrice qui est présente dans la salle de classe. Les éducatrices sont source de... Elles ont une créativité hors pair et elles sont spécialistes au niveau du développement de l'enfant. Ce qui fait que quand c'est le temps de planifier, quand c'est le temps... Il y a beaucoup de choses que moi, avec mon bagage de didactique, de comment faire l'enseignement de français, comment... Il y a des choses au niveau du développement de l'enfant que je suis peut-être pas certaine, ou je suis pas sûre, ou je sais pas qu'est-ce que je pourrais offrir. Les éducatrices sont championnes à ce niveau-là. D'ailleurs, je salue May, qui était celle avec qui je travaillais.
Et tu le sais, parce que toi aussi, tu es éducatrice, n'est-ce pas?
Oui.
C'était ton premier diplôme?
Oui, avant d'être enseignante, j'étais éducatrice. Oui, tout à fait.
Alors, éducateur et éducatrice.
Je pense qu'au conseil, on n'a pas encore d'éducateurs, mais ils sont les bienvenus. Oui, on les cherche et on les attend.
C'est ça, j'allais dire. Je connais pas trop ça, mais...
Je pensais que tu lui demandais si elle avait commencé sa carrière comme éducateur ou comme éducatrice.
Ça, c'est de l'information que tu ne sauras pas.
Ouais, non. On ne rentre pas dans le personnel.
Non, on n'a pas le droit. J'ai vérifié.
Est-ce que d'autres choses à ajouter, mesdames? D'autres choses.
Visitez notre page Facebook. Dites-nous ce que vous en pensez.
Et si la maternelle jardin vous fait peur au niveau de l'enseignement, c'est le moment idéal pour se lancer puis aller le faire pendant l'année.
Exactement. Moi, j'ai trouvé cette conversation là extrêmement intéressante. Puis ça me donne envie. Ça me donne envie d'aller voir comment ça se passe. On pense que c'est différent, mais en fait, à la base, c'est pas mal semblable.
Ce n'est pas juste jouer.
On les laisse jouer. Absolument, dis pas ça.
Ah, mais toi, toi, t'as pas besoin de connaître les mathématiques. T'es juste une enseignante de maternelle jardin.
Au pire, une éducatrice de maternelle jardin.
Non. Tout le monde joue un rôle important, critique et crucial.
J'ai suivi une formation il y a de ça quelques années. C'était le sommet de je sais pas quoi. Je me souviens plus. Ça fait longtemps. Et puis, je me souviens que la rencontre d'ouverture, il y avait des centaines d'enseignants dans la salle. Et puis, la personne qui était devant avec le micro, avant même de commencer son discours de début de conférence, il a posé la question « Qui d'entre vous sont ceux et celles qui enseignent en maternelle-jardin? » Alors, il y a quelques personnes dans la salle qui se sont levées, mais comme pas certains de ce qui va se passer. Alors, tu te lèves, mais juste un petit peu, ou tu lèves juste le doigt plutôt que lever la main. Et puis, le monsieur, l'homme en question qui donnait le discours, a demandé à tous les autres qui étaient restés assis d'applaudir ceux qui étaient debout.
Oh!
Il a dit que si vos élèves sont capables d'aller à la salle de toilette seuls, si vos élèves sont capables de tenir un crayon, de manger leur collation, de ranger leurs vêtements, c'était grâce aux personnes qui étaient debout, qui sont comme au début de tout ce parcours scolaire-là. Et il y a des choses qu'en quatrième année, on prend pour acquis, que l'élève devrait savoir faire, mais qu'en maternelle-jardin, on peut prendre à rien pour acquis.
Mmh. Wow. Tu peux pas réaliser à quel niveau on a un impact. Je trouve des élèves qui sont en 11e et en 12e qui se rappellent de mon nom, même si ça fait comme une dizaine d'années qu'on se voit plus, mais il y a quelque chose qui fait que... OK, ils ont eu plusieurs enseignants en longue route, là, mais c'est...
Les miens me demandent encore de faire un cartwheel quand ils me voient.
Est-ce que tu en faisais?
Je suis encore capable.
Oui. Oh, bon, wow. c'est
dans c'est mon ces petits moments là.
Dans c'est mon que... relevé d'apprentissage, ça ne sera pas
c'est
dans mon.
C'est ma prochaine étape.
C'est ma prochaine étape. Un cartwheel. Sur ce, alors, on vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute. On vous remercie, on vous salue, on vous dit au revoir et à la prochaine!
La prochaine série! Parce que là, on commence sur un tout autre sujet et ça, pour le savoir, il va falloir aller l'écouter!
À la prochaine!
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Jennifer Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Un remerciement particulier à nos directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Le montage est fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Ralph Grant et enregistrée par les Productions Guérin. Les dessins du logo sont créés par Francis Fauteux et notre logo est créé par Mylène Brassard. À la prochaine!